L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusé à 18h. Vous le savez, le lundi, c'est souvent, non pas ravioli, mais en tout cas gourmandise, cuisine, alimentation, en pratique et en réflexion. Aujourd'hui, on reçoit l'association 4 quarts et en particulier Françoise Doucet, experte agroalimentaire, qui est aussi diplômée de l'Institut des hautes études du goût de Reims et qui est une femme méthodique. Avec sa comparse Pascale Osier, qui est gourmette assermentée mais qui n'a pas pu être là aujourd'hui, elles nous ont mijoté un véritable manuel de l'organisation en cuisine. Bonjour Françoise.
Bonjour Véronique.
Alors, on imagine très bien pour quelles raisons ça peut être important de bien s'organiser en cuisine, notamment gagner du temps, mais il y a peut-être d'autres raisons qu'on sent moins bien. Pourquoi s'organiser en cuisine? Qu'est-ce que ça peut apporter? C'est quoi les intérêts?
Bah, du bien-être, enfin, pas trop de stress. Après, c'est très variable d'une personne à l'autre aussi. Hein. Je crois que plus on est créatif, plus on est aussi capable d'ouvrir son réfrigérateur et se dire « avec ce qu'il y a là, je vais trouver, je vais inventer, je vais... » Voilà. Puis, bah, y a aussi des personnes qui sont un petit peu moins créatives, qui ont besoin d'être méthodiques, qui ont besoin de suivre une recette... Je pense à beaucoup de monde.
Je
pense à beaucoup de monde. Et là, du coup, il y a en plus de la recette, une anticipation à avoir, une structuration à avoir.
Et une organisation. Donc c'est pour ces personnes que nous réalisons aujourd'hui cette émission. Alors ce sera peut-être moins créatif, quoique, hein, on verra bien. Donc l'organisation, évidemment, ça commence avant même la cuisine. Enfin, ça commence dans la tête, si on veut, c'est ça. On planifie.
Oui, on planifie. Alors, c'est une vraie question. Hein. J'ai pas de réponse toute faite. On peut planifier à la journée, on peut planifier pour 2-3 jours, on peut planifier à la semaine. Il y a autant de modèles qui existent de modes de fonctionnement. À titre personnel, j'aime bien anticiper sur 2-3 jours. Voilà, donc,
ça paraît pas mal.
Voilà, et donc, ça c'est au niveau perso.
Mais ça veut dire qu'il faut refaire peut-être des courses dans la semaine, quoi. Enfin,
oui, je sais.
Il faut faire 2 ou 3 fois des courses, quoi.
Je sais que je fais, moi, perso, 2 fois les courses dans la semaine. Une fois en milieu de semaine et une fois le samedi au marché.
Donc si on déteste les courses et si on a des énormes capacités de stockage, on peut faire des planifications au mois, hein, pourquoi pas?
Alors c'est ce qui fait... c'est drôle parce que c'est ce qu'ils font sur 5 semaines en restauration collective, par exemple. Où là, du coup, ils ont une organisation béton. Ils font ce qu'on appelle un plan alimentaire. Et ce plan alimentaire, alors, un plan alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple le lundi, enfin c'est par famille d'aliments.
Ah,
donc c'est par famille d'aliments et par semaine et sur 5 semaines. Donc le lundi, je vais vous donner un exemple tout bête. Le lundi, admettons midi, ça c'est marqué crudité et viande par exemple. Donc semaine 1, bah, ça va être décliné carottes râpées poulet. Semaine 2, ça va être décliné pamplemousse saucisse. Enfin, par exemple.
Oui, voilà. Exemple. Sûr, on comprend.
Exemple. Et finalement, on saura par exemple que le vendredi, religieusement parlant en plus, c'est poisson.
Là, ça va peut-être manquer si les pêcheurs sont en grève. Il n'y aura plus de poisson bientôt.
C'est ça. Et le samedi, plus ethnique, plaisir, etc. Si j'en reviens à la restauration collective, ça permet d'anticiper, ça permet d'approvisionner, ça permet d'acheter au meilleur prix, ça permet d'acheter aussi en fonction d'une saisonnalité. C'est pas mal, hein. Mm-hmm. C'est pas mal. Alors, mais... ils reprennent un petit peu au niveau personnel. Alors, on n'est pas sur le plan alimentaire traduit en menu semaine après semaine, mais avec le batch cooking.
Alors voilà, qu'est-ce que c'est que le batch cooking? Ça commence à être connu, mais on va peut-être rappeler ce que c'est.
Ça commence. Alors, je ne sais pas quelle proportion en France utilise cette méthode. C'est planifier pour la semaine ses repas. Acheter les matières premières et cuisiner donc le samedi, dimanche pour la semaine. Mmh. Voilà. On le stocke. Ou en tout cas, on fait pas mal de préparations intermédiaires pour que chaque jour de la semaine, eh ben, il y ait moins de travail, il n'y ait qu'à ouvrir son réfrigérateur et prendre la quiche Lorraine qui a été faite, le pot-au-feu.
Simplement les sauces aussi, ça peut être juste ça. En fait, on prépare des coulis de tomates et puis au moins on pourra manger ça avec ses pâtes qu'on aura fait au dernier moment.
Ouais, ça peut être les sauces. Alors moi, je ne le fais pas. Je le fais pour tout ce qui est préparation de légumes. Tout ce qui est oignons rissolés. Enfin, des trucs que je n'aime pas faire et qui me salissent ma cuisine.
Françoise est un petit peu maniaque. Mais elle adore cuisiner.
L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Donc tout ce qui est oignons, poireaux, j'épluche, carottes même, en fait. J'aime bien éplucher avant. L'oignon, je le fais rissoler. Ça prend du temps.
Oui, c'est vrai.
Ça prend du temps.
Autant être à côté en train d'éplucher d'autres légumes, quoi.
Exactement. Les oignons, les poireaux, pareil, je les lave, ça prend du temps. Je les fais rissoler, ça prend du temps. Et en grosse quantité. C'est-à-dire que je vais faire facile 600 grammes d'oignons, 1 kilo de poireaux. Mais ensuite, avec ces matières qui ont réduites, je vais les utiliser toute la semaine.
Juste au frigo, il n'y a pas besoin de les congeler.
Alors, si c'est dans un bon frigo 3 degrés, on peut les utiliser toute la semaine.
Ouais, sans...
Il ne faut pas que le frigo soit à 10.
Oui, d'accord. Oui, voilà. Bien sûr. Sinon, on peut faire aussi, on peut faire aussi ces fonds. Alors, c'est pareil, hein, faire un fond avec une carcasse de poulet, c'est quand même un peu long et pénible. Donc là, par contre, on va le congeler en général, le fond. Comme ça, on aura des petits cubes de fond de viande.
C'est top à faire ça aussi.
Ouais. Et si on n'aime vraiment pas la manutention culinaire, si on trouve ça barbant, moi, je recommande d'écouter des podcasts en même temps. De Radio Évasion ou d'autres. Donc là, on était sur la planification. On peut même planifier la cuisine des restes, c'est ça ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Eh ben, c'est dans un plan alimentaire où à la semaine, même quand je vais faire mes courses 3 jours, j'achète pour 2 jours et demi. Parce que je sais que j'aurai des petits restes. Et je sais que comme je ne jette quasiment rien... Je cuisinerai les petits restes sur le repas restant.
Oui, parce qu'en fait, c'est ça aussi, s'organiser en cuisine, c'est réduire ses déchets. On ne l'a pas dit au début dans les intérêts, mais c'est vraiment un des intérêts à ne pas gaspiller, quoi, en fait, tout simplement. Alors, donc, ça, c'était pour la planification, la conception des repas. Ensuite, eh bien, on va faire ses courses, évidemment. Et là, c'est intéressant parce que Françoise Doucet nous préconise, c'est comme pour le journalisme, le troc-upoc. Enfin, moi, j'appelle ça le troc-upoc. C'est les fameuses questions quand, qui, quoi, où, comment. Voilà. Et donc, ça marche aussi en organisation culinaire, c'est ça ?
Oui, c'est juste une méthode. Après, sur quand s'approvisionner, ben, je dirais tout dépend de la situation familiale. Une personne qui est en plein centre-ville, qui a un emploi du temps suffisamment flexible et qui, en rentrant du travail, peut s'arrêter à la petite épicerie, à la boucherie, ben pourquoi ne pas aller faire ses courses tous les jours,
hein. Oui, à la limite.
Voilà, à la limite.
Quand on a la chance de travailler au fou, par exemple, on peut quasiment.
C'est ça, c'est ça. Alors, qui fait les courses, c'est souvent celui qui cuisine.
Ou alors faut faire une liste bien précise de ce qu'on veut.
C'est ça, c'est ça. Et aussi optimiser ses déplacements, c'est-à-dire en rentrant du travail, je sais que je vais m'arrêter par tel ou tel magasin. Et sur la route.
On est d'accord, c'est quand même mieux de faire une liste, même s'il ne faut pas être trop psychorigide avec ça.
Carrément, ça évite les achats superflus, un peu compulsifs, enfin les achats additionnels de tête de gondole par exemple.
Et on ne fait pas ses courses en ayant faim. On l'a déjà dit, ça. Et à quel endroit, voilà. À quel endroit? Ça, c'est vraiment une question en plus très actuelle. Où fait-on ses courses?
Je dirais que ça va dépendre de qui on est, de ses valeurs, de ses croyances, de qui, à qui on a envie de... de donner notre, enfin, où est-ce qu'on a envie d'acheter en fait, hein, à qui j'achète, qui me nourrit, ça c'est des questions propres à chacun. Donc chacun chemine, effectivement.
Il paraît que le local a le vent en poupe. Est-ce que les gens voilà achètent vraiment du local dans les chiffres? Est-ce que ça se traduit dans les chiffres? Ça je ne sais pas, mais
le bio est
le bio baisse,
mais le local a l'air d'avoir un petit peu plus, ouais. Ça a l'air d'être une tendance, oui, se maintient, on va dire ça comme ça.
Alors bien sûr, c'est aussi une question de porte-monnaie, comme on dit, hein, voilà, si on a, si... mais c'est vrai que souvent aller au marché, c'est pas plus, enfin, faut aussi lutter contre les idées reçues, faire son marché, c'est pas plus cher, pas forcément plus cher, en tout cas, parce que si on a affaire à des producteurs, c'est de la vente directe finalement, donc il y a pas de marge,
il y a pas d'intermédiaire. Il y a une marge, mais il n'y a pas d'intermédiaire, oui. et on s'y retrouve.
Voilà, et finalement, ce n'est pas plus cher que quand c'est au supermarché, que c'est passé par trois intermédiaires qui, à chaque fois, ont pris leur marge, quoi.
Et en plus, vous avez une petite info sur la technique culturelle ou sur le mode de fabrication du fromage. Donc, ça crée du lien social.
Et des marchés, il y en a à nouveau. Ils sont plus nombreux, les marchés, en plus. Il y en a peut-être pas dans toutes les communes, mais enfin, il y en a de plus en plus.
Ça, c'est bien.
Oui, c'est une bonne chose. Si on veut acheter local, en tout cas, c'est bien, souvent. Comment est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on garde son ticket? Non, parce qu'à partir du 1er avril, il faut dire qu'il va y avoir un petit changement.
Oui, alors j'ai entendu hier, hein, c'est pas vieux, hein, que du coup, ça sera plus le 1er avril, ça va être repoussé à cet été. Le fait que le ticket ne sera plus obligatoire, donc le ticket de caisse ne sera plus obligatoire, donc il faudra le demander. Moi, je pense que ça pose quand même là une question par rapport à la traçabilité des prix, notamment cette période d'inflation. Et c'est notamment pour ça que, à un niveau plus haut, le gouvernement a décidé de repousser un petit peu plus tard parce que c'était effectivement pas le moment.
Oui, parce qu'avoir son ticket de caisse, ça permet de voir vérifier d'une semaine sur l'autre si ça a augmenté ou pas. Et puis c'est de l'alimentaire, ça peut se périmer plus vite que prévu. Enfin, moi, ça m'arrive, j'aime bien garder les tickets de caisse pour des oranges contenues une journée. Moi, je vais me les faire rembourser, quoi. Hein.
J'ai eu le cas il y a 15 jours avec un camembert qui était périmé de plus d'un mois.
Ah ouais, carrément.
J'avais pas vu.
Ah ouais, quand même. Oui, donc là, le ticket de caisse, c'est quand même intéressant de l'avoir. Hein.
Ouais.
Sachant qu'on pourra se le faire envoyer par SMS, théoriquement, ou par mail, hein, le ticket.
Oui, mais tout le monde n'a pas non plus, n'a pas forcément non plus le téléphone ad hoc.
Adéquat, ouais. Et si on veut aussi vraiment tenir ses comptes alimentaires, on peut carrément avoir son petit carnet, c'est ça?
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça demande beaucoup de boulot.
C'est ça. Donc, je pense que certains... C'est une idée, hein, c'est un axe. Certains le font, d'autres pas. Moi, je trouve que c'est pertinent. J'ai quelques chiffres en tête, que j'ai notés sur mon petit carnet. Par exemple, le prix des lentilles. Je ne sais pas pourquoi je suis focalisée sur le prix des lentilles. Donc, je vais voir dans 6 mois, dans 1 an, ce qu'il en est. Voilà, c'est pas forcément pour tous les aliments, mais pour certains aliments qui, pour nous paraissent phares.
Ou ça peut être pour noter un bon produit. Enfin, je sais pas, on a acheté par hasard un bon vin, on aimerait ne pas oublier son nom. Et on peut noter aussi, ça peut être utile pour ça. Est-ce qu'il faut commander sur Internet ou est-ce qu'il faut acheter sur le marché local? On en a déjà un peu parlé, hein.
Internet, ça fait gagner du temps, c'est intéressant quand on a des problèmes de mobilité, par exemple. Le marché local, l'intérêt, c'est que c'est un contact direct, c'est du lien social. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, peut-être que demain, ça sera intéressant d'imaginer comment est-ce que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tout l'acte d'achat va évoluer. Et ça me passionnerait de pouvoir anticiper tout ça.
L'alimentaire, c'est spécifique parce que l'alimentaire, moi personnellement, j'aime mieux voir ce que je vais manger. Autant je peux commander sur Internet des objets, mais autant l'alimentaire, j'aime bien voir si les fruits sont bien frais. Et le poisson.
Oui, à partir du moment où c'est pas vous qui choisissez.
C'est ça. Alors, avec ou sans emballage, ça c'est aussi une question à l'heure où le plastique est partout et tellement partout qu'on en ingère, on en mange en fait.
On en mange, même en début de chaîne alimentaire, au niveau des océans, bah, on met en évidence que les poissons mangent, et mangent des plastiques. Bon, c'est inquiétant. Et puis, ça c'est pour le côté écologique, mais pour le côté économique, accessoirement, on achète nos emballages
oui,
qu'on met à la
ça
poubelle,
se paye un emballage,
qu'on
bien
met
sûr
à la poubelle après.
En plus.
Donc voilà, raisonnons porte-monnaie, raisonnons à notre échelle, à notre micro-échelle, en disant nous achetons un emballage que nous jetons.
C'est ça. Donc, posons-nous la question. Donc, dans la mesure du possible, acheter en vrac, bah, ça demande par contre une organisation, acheter en vrac. Faut être très clair. Qu'est-ce qu'il faut prévoir ?
Des bocaux en verre, des petits sacs en tissu.
Ou des sacs en papier quand on achète des légumes.
Des sacs en papier. Bah c'est, ça en revient à la question d'anticipation, à la question de structuration. Est-ce que tout à chacun, on a suffisamment anticipé ?
Et anticiper, ça peut servir. Et alors, après, combien on achète ? C'est pareil, là, c'est de l'organisation pendant les courses. Enfin, c'est...
Là, c'est plus au niveau familial qu'il faut le voir quand il y a les enfants qui partent. Et quand on doit passer d'une grande famille à deux.
Je te dis, il ne faut plus acheter autant.
Il faut réviser son acte d'achat par rapport aux quantités, c'est clair. On s'en rend compte aussi avec les personnes âgées qui vivent... en couple et qui d'un coup reçoivent aussi leurs enfants, leurs petits-enfants et qui achètent toujours un kilo de courgettes et un kilo de carottes.
Oui, oui, il y a du temps. Et ensuite, dans l'organisation des courses, c'est bien aussi d'avoir, de penser à son temps de retour, de son temps de transport, de retour à la maison entre le lieu où on a fait ses courses et le domicile.
Oui, si on a 5 minutes, tout va bien. Pensons juste, raisonnons un peu comme les pros en se disant attention à la rupture de la chaîne du froid, puisque les pros font très très attention pour pas qu'elle existe à leur niveau. Mais nous, on devient en tant que consommateur, que client responsable à partir du moment où on a acheté nos produits frais, nos produits surgelés. Et ça serait dommage qu'ils soient avariés pour les avoir laissés 2 heures dans la voiture et puis d'être parti se baigner.
Ouais, un produit surgelé, c'est combien de temps on peut le garder ? Par exemple, sans sac isotherme. Si on n'a pas de sac isotherme, combien de temps on peut se permettre de transport ?
Je vais vous donner une réponse de Normand. Ça dépend de la quantité déjà. Si c'est des toutes petites portions, ça va se décongeler très vite. Si c'est un sac de 1 kg, 10 minutes.
Pas plus, quoi.
10 minutes, pas plus. Et puis, de toute façon, il y aura de la givre qui va se. Après, à recongélation. Et c'est pas très bon. C'est pas très bon. Autant avoir un bon sac isotherme.
Très bien, c'est noté. Alors, ensuite, on a fait ses courses. Il faut ranger, il faut stocker. Alors là, pareil, le 3 QPOC, qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi bon, non, où est-ce qu'on range déjà ouais.
Où est-ce qu'on range réfrigérateur, congélateur, garde-manger, frigo, garage, pardon. Ça, tout ça, c'est possible. Les œufs, pas besoin de les mettre au réfrigérateur. Préférer un réfrigérateur. Alors pareil, hein, pour le réfrigérateur et le congélateur, mais préférer un réfrigérateur plutôt à moitié plein. Ou donc à moitié vide, enlever tous les cartons, tous les emballages, parce que un, c'est d'abord une source de contamination, et deux, vous y verrez plus clair.
Ça dépense de l'énergie, en fait, à refroidir des emballages, c'est dommage aussi. Hein.
Carrément ça. Et puis, pensez toujours des givrages, voilà. Méthode FIFO, première entrée, première...
Quand est-ce qu'on dégivre ? Quand est-ce qu'on sait qu'il faut dégivrer son réfrigérateur ?
Quand vous voyez, quand ça se voit.
D'accord.
Quand ça se voit. Et puis pour les économies d'énergie, pensez aussi que le stockage a un coût. Et à titre personnel, j'ai 2 congélateurs, j'en ai éteint un pour les économies d'énergie et pour favoriser ma méthode FIFO, enfin pour faire sortir plus rapidement aussi mes produits du congélateur.
C'est quoi la méthode FIFO ?
C'est de l'anglais en fait, first in, first out, ouais. Première entrée, premier sorti.
Sauf pour des, j'imagine quand même pour des légumes ou des herbes d'assaisonnement qui vont servir de temps en temps, évidemment. Elles sortent pas d'un coup. Elles sortent progressivement.
Elles sortent progressivement.
Il ne faut pas les laisser trop longtemps quand même. C'est pas parce qu'on a mis ces produits au congélateur qu'on peut les laisser indéfiniment. On est d'accord. C'est quoi la durée, par exemple pour des légumes cuits ou
6 mois, c'est bien.
Pas plus, ah oui.
Oh, 6 mois, 8 mois. Tout dépend. Il faut tout dépend de s'il n'y a pas de variation au niveau thermique. 1 an, ça va se conserver. Si, en revanche, vous avez ouvert, fermé, avec remontée des températures, redescente, remontée, redescente, bah là, la durée de conservation ne va pas être du tout la même. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, en fait.
Et le congélateur, pareil, pas d'emballage et pas trop rempli.
Oui. Voilà.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on conserve hors du congélateur, notamment dans son garage ou dans son garde-manger, tout ce qu'on n'a pas besoin de mettre au frigo ni au congélateur?
Oui, pas forcément. Les fruits, les légumes. L'été, les garder au garage, c'est bien. L'hiver, moi, je les laisse. Alors, au niveau personnel, au niveau professionnel, ça serait strictement interdit. Mais au niveau personnel, je les mets dehors, au nord, dans une caisse, et ça suffit largement.
Oui, je confirme. Alors, on prépare. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on prépare? On est enfin en train de cuisiner. Et oui, on n'avance pas vite. On n'arrivera pas à tout traiter. On fera une autre émission, c'est pas grave. Alors, la préparation. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour être bien organisé en cuisine?
Qu'est-ce qu'il faut savoir? Moi, je donnerais juste le petit truc. Séquencer vos opérations. Toutes les opérations salissantes, je parlais de mon dimanche soir avec mes oignons, mes poireaux, mes carottes.
Tous les épluchages en même temps,
voilà. Ça, c'est une donnée qu'on retrouve aussi au niveau professionnel, mais elle est top quand on l'applique, quoi. Mm-hmm. Elle est vraiment, ça me fait gagner un temps fou. Pensez aussi, deuxième recette.
Pour les restes.
Pensez à cuisiner les restes. Mm-hmm. Ça, alors, vous allez me dire, bah oui, mais comment? Le hachis parmentier, ça marche à tous les coups.
Les boulettes,
ça marche à tous les coups. Les soupes, ça marche à tous les coups. Y compris la soupe de poisson avec les têtes. Hein, c'est
oui,
ce que.
C'est, oui, ou les fonds de sauce, voilà,
ça,
tout ça.
Ça marche à tous les coups. Mmh. Et ne vous dites pas surtout, la tête, oh bah non, c'est pas suffisamment noble, je vais pas la mettre. Au contraire, c'est là où il y a le plus de goût.
Bah oui, c'est ça qui donne le goût, bien sûr. Comme les os du poulet, etc. Et surtout, cuisiner les produits de saison, ça a l'air de tomber sous le sens, on n'en a pas parlé d'ailleurs lors des achats, mais enfin, on va le redire une autre fois, quoi. Mmh. Et alors, ça y est, on mange enfin, qu'est-ce qu'on fait pour manger?
Les fraises arrivent.
Ah oui. Oui, c'est un peu tôt, non?
C'est un peu tôt, mais bon, commençons à en parler.
Et alors, quand on mange, qu'est-ce qu'il est bien de faire, par exemple?
Qu'est-ce qu'il est bien de faire? De s'asseoir, de prendre un temps. Peu importe lequel, mais de prendre un temps pour soi, d'être en conscience, de mâcher, de savourer. Là, c'est le bonheur. Si c'est possible d'être ensemble, de manger pas tout seul, c'est important. On profitera mieux, on mastiquera mieux, on prendra un peu plus de temps. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la consommation? Si j'ai bien, si je suis contente de ce que j'ai préparé, prenez une photo. Comme ça, vous la mettrez dans votre banque à idées pour le refaire une fois prochaine. Et si vous êtes tellement content, envoyez-le même à une amie, un ami pour lui filer la recette.
Oui, c'est
pourquoi
ça.
Pas.
Bien sûr. Et si on a trop, on peut donner aussi une part à son voisin. On en avait déjà parlé.
Moi, c'est particulièrement quelque chose qui me tient à cœur. Comment, en toute simplicité, développer un lien sans être intrusif, en faisant plaisir, sans forcément attendre quoi que ce soit en retour. Hein, c'est pas ça. C'est comment est-ce que je peux me manifester en allant dire bonjour, en toute simplicité et par amitié, et repartir aussi bien qu'on est arrivé.
On a fini de manger. Les déchets, on en a parlé un peu. Comment faire pour moins remplir ses poubelles?
Comment faire pour moins remplir
composter déjà.
Oui, c'est ça. Faire ses yaourts maison, pourquoi pas. Aussi.
Et récupérer des emballages pour en faire autre chose.
Ah oh là là.
Mais oui. Bah oui. Et nous, on est créatifs, justement. C'est là que la créativité
alors,
revient.
Alors, la créativité. Qu'est-ce que. J'avais une quinzaine de boîtes de Saint-Nectaire. Les grandes boîtes de Saint-Nectaire que j'ai décorées pour Noël et où j'ai mis plein de produits alimentaires dedans. Et ça fait comme une bourriche, en fait. Voilà. Pensez vraiment, vraiment, rappelez-vous qu'au-delà de jeter, vous l'avez payé l'emballage. Le verre, dites-vous que c'est une matière noble, une matière imputrescible.
Et qui demande énormément d'énergie à fabriquer.
Exactement. Donc, essayons de récupérer le verre et d'en refaire autre chose, oui. de s'en servir comme contenant pour en faire autre chose. Alors, dans les petits pots en yaourt, qu'est-ce que j'ai fait récemment? Si j'ai mis des sels mélangés avec des herbes, des baies de genièvre, etc. J'ai fermé, parce qu'il y avait en plus un petit couvercle, en plus du pot en verre, j'avais un petit couvercle. J'ai mis une petite, un petit chapeau, voilà, avec un petit lien, et c'était super joli.
Ça fait un petit cadeau, voilà.
Petit cadeau
pour
sympa.
Entretenir l'amitié. Merci Françoise, on va s'arrêter là. Merci pour tous ces conseils d'organisation en cuisine. Merci à l'association 4 quarts qu'on retrouvera peut-être au mois de mai ou au mois de juin, on va se dire ça. À bientôt.
Avec plaisir, au revoir Véronique.